Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé, émission spéciale à Abidjan. Caroline Paris.
À toutes et à tous, bienvenue à vous qui avez répondu présent aujourd'hui pour assister à Priorité Santé ici à Abidjan. On vous remercie tous d'être avec nous aujourd'hui, on vous salue. Alors une émission en public, c'est même pas la peine de le dire, on l'a intitulée Amour un jour, amour toujours. Il va donc être question de rencontre, d'engagement, de consentement, de sentiment au pluriel, le passage à l'acte, dans quelles conditions, les inquiétudes des uns, les interrogations des autres, quelles sont les attentes des partenaires, des filles comme des garçons, et se fréquenter, apprendre à se connaître et peut-être vivre ensemble, quel projet un jour se marier, fonder une famille. On va parler de tout cela avec bien sûr l'âge des premières relations et puis ce qui est le plus important, c'est un peu le thème de notre émission Priorité Santé, s'aimer sans mettre en péril sa santé. Quand on parle de santé sexuelle, il faut aussi démentir pas mal de fausses idées, des rumeurs, des préjugés. Alors on va parler des comportements aussi dits à risque avec nos invités, à risque en termes de santé bien sûr, et puis de la façon dont les réseaux sociaux ont un petit peu changé les choses, bouleversé la communication, l'approche et même la séduction. Peut-être qu'on ne drague plus aujourd'hui comme on draguait hier tout simplement. Amour un jour, amour toujours, s'aimer, rester en bonne santé. Et vos questions à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Merci au public d'Abidjan d'être présent et merci bien sûr aussi à nos invités. Ils sont trois invités à avoir répondu présent aujourd'hui. Tout d'abord vous, Madame Eliane Abbé Nangoran, bonjour. Vous êtes gynécologue, obstétricienne au CHU de Trècheville, secrétaire générale de la Société des gynécologues et obstétriciennes Côte d'Ivoire. Également avec nous, Madame Berthe Odile Pohan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue à Abidjan. Et puis, Roderick Cambou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du MAJ, autrement dit Mouvement Action des Jeunes à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et justement, vous les jeunes, on va vous donner la parole. Ce sera après notre espace de débat. On va vous donner la parole dans quelques minutes. Alors, il y a beaucoup de choses derrière ce titre en forme de questions. Amour un jour, amour toujours. Pour certains, il n'y a pas de point d'interrogation. Quand on se rencontre, on croit que c'est pour la vie. Mais parfois, la vie nous réserve des surprises. Alors d'abord, une interrogation sur la relation amoureuse. Et en toile de fond, cette question, combien de temps ça va, ça peut durer? Berthe Odile Pohan, vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils s'engagent, pour la plupart d'entre eux, ils espèrent une relation longue durée?
Ben, c'est ce qu'ils croient, mais en eux-mêmes, ce n'est pas ce qui est souhaité, c'est pas ce qu'ils désirent réellement. Parce que on est dans un âge où ils ne sont pas encore prêts à une relation dans la durée. Quand vous les rencontrez, ils vous disent non, moi je veux finir. Quand ils rencontrent la jeune fille, ils commencent par dire moi je veux t'épouser. C'est comme si c'était la drague en train de mettre cette personne dans une position de séduction. Mais quand ils sont encore élèves et qu'ils n'ont pas encore fini, le mariage n'est pas à l'ordre du jour généralement.
Alors on se projette dans une relation, on se voit peut-être grandir ensemble, on fait des projets, oui. Mais ça passe d'abord par la rencontre, par la séduction, bien avec sûr. Une question sur l'âge, au bout de combien de temps? Docteur Eliane Abbé Nangoran, est-ce que c'est une question qui revient souvent en consultation? Est-ce qu'il y a un âge de maturité pour engager une relation amoureuse?
C'est bien sûr un sujet qui revient autant pour les jeunes même, mais surtout pour les parents. C'est une problématique qui inquiète tout le monde et je crois bien que les jeunes ne viennent pas pour demander s'il y a un âge, mais ils viennent déjà surtout pour avoir des conseils parce qu'en général, ils sont déjà dans une relation amoureuse.
On veut dire par là une relation physique avec des interrogations sur, j'imagine, la contraception, également sur la protection.
Oui, sur la protection surtout, sur la contraception et surtout sur les conseils à avoir pour éviter une grossesse non désirée.
Alors on verra tout à l'heure avec les jeunes si justement les langues se délient sur ces relations. C'est pas forcément facile d'en parler quand on est en public. En tout cas, docteur Eliane Abé-Nyangoran, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de questions sont posées par les jeunes quand ils arrivent chez vous, dans votre cabinet? Une jeune fille, par exemple, qui s'assied en face de vous, qu'est-ce qu'elle vous demande?
Bon, la jeune fille qui vient en général seule ou accompagnée de son petit ami, en général, elle vient parce qu'elle a déjà des petits problèmes. C'est en général des problèmes d'infection ou alors des problèmes de contraception.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, déjà un problème de retard de cycle, on va dire,
pas forcément.
La crainte d'une grossesse, non?
Surtout la crainte d'une grossesse parce qu'elle voudrait pouvoir sécuriser cette relation-là et la protéger également.
Voilà. Il y a une question clé quand on engage une relation, surtout quand on parle du passage à l'acte, c'est la question... Berthodile Pohan, du consentement. Des fois, on n'interprète pas de la même façon quand on est une fille ou un garçon, un regard, une attitude de séduction. Certains, on va dire, souhaitent aller un peu vite en besogne. Justement, comment bien marquer les choses pour comprendre quand, il y a une expression, on dit quand c'est oui, quand c'est non, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Justement, comment savoir ce qu'est réellement le consentement?
Ben, généralement, pour l'homme, il s'est dit... que la jeune fille ne dit jamais oui. Quand vous êtes en face d'eux, ils disent, madame, les femmes, quand elles vont dire oui, elles vont faire beaucoup, elles vont vous tourner, mais leur non est pris comme un oui. Je dis non. Le garçon, quand il est avec la jeune fille, la sexualité est déjà l'élément clé. Alors que vous remarquez que la jeune fille, elle veut être d'abord, être séduite, avoir du temps, prendre le temps de se connaître, d'être ensemble. Et l'homme, lui, veut vite passer à l'acte. Et il va jusqu'à lui dire, si tu m'aimes, tu dois faire l'acte sexuel. Et c'est ce qui perturbe la fille, parce qu'elle dit, il dit, si je ne fais pas l'acte sexuel, c'est que je ne l'aime pas. Est-ce que c'est vrai?
Nous, on mélange les choses.
Voilà, ce n'est pas cela. Donc le consentement, c'est permettre à la personne de dire oui. Parce que la plupart des jeunes filles à 12 ans, elles te disent, je suis rentrée dans la chambre et puis il a fermé la chambre. Donc beaucoup, ce n'est pas, il n'y a pas de consentement.
Alors je ne sais pas pourquoi vous applaudissez ici, parce que vous trouvez que c'est quelque chose d'intéressant ou de positif. Moi, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à applaudir.
Voilà, parce qu'on lui prend sa virginité,
absolument.
Il n'y a pas de consentement. On lui dit, tu es rentré dans ma chambre, et c'est pour ça que dans les conférences ou autres, nous nous mettons cela comme un avant, ne rentrez pas dans les chambres, ne vous retrouvez pas.
Et voilà. Ça fait partie aussi de l'information des jeunes. Rodrigue Cambou, est-ce que vous feriez vous aussi une séparation comme ça entre ce que pensent les filles et pensent les garçons, ressentent les filles, ressentent les garçons, avec des fois une forme d'incompréhension sur ce que l'un veut et l'une désire? Ça, ce n'est pas forcément la même chose au même instant.
Oui, effectivement, ce n'est pas forcément la même chose. Comme Madame Cohn vient de le dire, le jeune garçon, lui, il veut les rapports sexuels. Par contre, la fille veut prouver au jeune qu'elle aime. Donc, il utilise ce moyen pour faire une pression sur la fille, pour lui dire que si tu m'aimes, allons ensemble. Donc, la fille n'a pas le consentement, elle donne pas le consentement, mais pour prouver au jeune qu'elle veut rester avec lui, elle le fait. Et souvent, à un très bas âge, 13 ans, 14 ans, elle a déjà les rapports sexuels.
À un moment où elle n'est pas forcément informée sur les conséquences qu'auront justement ces relations sexuelles qui sont relativement tôt pour une jeune fille.
Oui, effectivement, à 12 ans, 13 ans, la jeune fille n'a pas toute l'information sur sa sexualité.
Et ça, c'est important parce que dès la base, ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle en famille. On n'a pas eu d'interlocuteur, on n'a pas eu quelqu'un qui nous explique comment ça se passe et surtout ses conséquences très concrètes.
Oui, les jeunes filles n'ont pas cette éducation à la maison. Et l'éducation est faite dans la rue. L'éducation est faite dans la rue auprès des pères. Et parfois, les pères, ce sont les mêmes jeunes qu'on rencontre qui nous demandent d'avoir des rapports sexuels. Donc souvent, c'est ce qu'ils veulent. Ils vont dire à la jeune fille et la jeune fille va mettre en application.
Rodrigue Cambou, est-ce que vous avez, vous, comme retour, on parlait tout à l'heure d'informations, mais est-ce que vous avez des retours sur des fausses informations, des rumeurs qui concernent justement l'amour, la sexualité, et un petit peu justement ces rumeurs auxquelles vous voulez tordre le cou pour qu'on en finisse avec ces informations complètement fausses sur la sexualité et sur l'amour?
Oui, au niveau de la sexualité, il y a vraiment assez de rumeurs. Et la première rumeur qui revient à chaque fois, les jeunes filles disent que, les jeunes garçons leur disent que les premiers rapports sexuels ne donnent pas de grossesse, ne donnent pas d'infection. Voilà, que c'est au fil
du temps.
Et là,
c'est clair, la réponse, on va se retourner directement vers la gynécologue, c'est complètement
faux, bien
sûr. C'est complètement faux. C'est pas... Il n'y a aucune protection une première fois, une deuxième fois, c'est totalement faux.
C'est totalement faux, surtout qu'à cet âge, la jeune fille, elle est déjà très féconde. Elle tombe beaucoup plus facilement enceinte qu'une femme. Donc, elle est exposée à la grossesse dès le premier rapport sexuel.
Docteur Eliane Abbé-Nangoran, justement, vous êtes confrontée tous les jours à cette méconnaissance, y compris sur le corps, y compris sur l'anatomie et justement sur les conséquences des relations sexuelles.
Oui, bien sûr. Comme il a dit, hein, elles pensent qu'elles ont peu de chances de tomber enceinte. La grossesse, c'est vrai, inquiète tout le monde. Mais il ne faut pas oublier toutes les maladies qu'on peut attraper. Hein, on parle beaucoup de VIH, on parle de syphilis, on parle de gonorrhée, ce qu'on appelle le gono couramment. Mais il ne faut pas oublier que les rapports précoces, non protégés, avec des partenaires multiples, favorisent le cancer du col. Donc je pense que si les jeunes avaient ces informations, ils viendraient plutôt rechercher les conseils avant de passer à l'acte.
Rodrigue Cambou, il y a des rumeurs, il y a des clichés. Par exemple, en termes de genre, hein, c'est le thème cette année du FEMUA, genre et développement. Par exemple, on associe aux filles une forme de naïveté. Elles seraient fleurs bleues, elles croient un petit peu à n'importe quoi. Elles sont idéalistes, romantiques. Et les garçons, image de séducteurs en série. C'est un petit peu ce qu'on a entendu tout à l'heure quand il y a eu l'applaudissement au sujet de la porte fermée à 12 ans. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est vrai cette séparation? Moi, il y a un mot quand j'ai préparé l'émission qui m'a fait réagir. J'espère que je vais le dire correctement. C'est le, je pense que ça va réagir, le mougoupan. Qu'est-ce que c'est le mougoupan? Alors, ça nécessite... Voilà. On a compris que ça faisait réagir. Voilà. Je vois que le machisme n'est pas complètement mort, hein, à ce qu'on entend. Alors, Rodrigue Cambou, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement ce mougoupan qui fait... Dada, je vais vous dire, qui fait applaudir les garçons, mais qui atterre les filles. Allez-y.
D'accord. Le mougoupan, c'est juste avoir des rapports sexuels pour juste un moment. On se croise aujourd'hui, on a des rapports sexuels et demain, c'est ni vu ni connu. Chacun prend son chemin.
Et ce qu'il n'y a pas, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelque chose qui est valorisé. Pourtant, Berthaudil Pouan, on peut dire qu'il y a une forme de... Je m'excuse, hein, c'est un jugement, mais je vais oser. Il y a une forme de lâcheté. On profite de la naïveté et puis on prend ses jambes à son cou une fois que l'affaire est faite. Il y a certains contes qui racontent des choses comme ça. C'est une forme d'arnaque, moi je dis.
C'est
une forme d'arnaque sentimentale. Parce qu'elle croyait à l'amour et elle se retrouve toute seule. Voilà, une fois le fait accompli. Alors, mais pourtant, on dit aujourd'hui qu'il y a certaines filles aussi qui se comportent comme ça parce que les choses sont un petit peu moins figées qu'auparavant. Est-ce que c'est vrai?
Ben, c'est ce qu'on constate. On leur dit, on passe une nuit ensemble et puis la personne disparaît. C'est ça qui fait la différence. La femme est dans les sentiments. Elle a envie de se ressentir quelque chose. Alors que l'homme peut être dans la satisfaction d'un besoin sexuel immédiat. Et c'est ce qui fait qu'elle pense que quand quelqu'un veut avoir des rapports sexuels avec elle, c'est parce que, comme il le dit, et après ces rapports sexuels-là, d'une nuit, ils disparaissent. C'est pour ça que vous avez parlé d'arnaque sexuelle, de blessures et de frustrations, parce qu'on est dans une dynamique relationnelle qu'on croyait honnête et sincère, et on se rend compte qu'on vous a utilisé comme cela. Donc, on ne donne pas à la dimension affective sa noblesse. C'est ça qui est différent quand on parle du mougoupan qui est qu'on vous prend, on joue avec vous et puis on disparaît quoi. Voilà.
Et c'est bien ça, hein, docteur Eliane Abbé-Nangoran, vous êtes gynécologue, mais dans votre travail, on parle aussi de sentiments, on parle aussi de ressentis, on parle aussi de déception. C'est pas simplement le corps n'est pas une machine.
Oui, bien sûr, on parle de tout ça, mais j'aimerais bien rebondir dessus. Je ne veux pas déculpabiliser les jeunes garçons, mais je constate que maintenant, les jeunes filles ont les mêmes comportements. Je ne sais pas, le public va prendre la parole après. Même de plus en plus, des jeunes filles
sont dans la séduction.
Sont dans la séduction.
Mais peut-être qu'elles ont un peu plus de mal à en parler ouvertement. Peut-être que les garçons entre eux en font une certaine fierté. Je ne sais pas si, Rodrigue Cambou, vous avez un petit peu des échos là-dessus. Est-ce que les filles ont ces comportements, mais en parlent moins, on va dire, s'en vantent moins que les garçons?
Les filles le font. Comme on a dit, et les filles, quand elles font, on leur dit qu'elles gèrent busy.
C'est-à-dire?
La fille a plusieurs partenaires avec qui elle sort pour satisfaire ses besoins.
Mais est-ce que l'entourage a le même regard? Est-ce qu'on juge de la même façon, on va dire, un garçon qui multiplie les partenaires qu'une jeune femme qui fait la même chose.
Non, ce n'est pas la même chose. Le jeune garçon, quand il a plusieurs partenaires, mais quand il fait le mouroupin, on le qualifie en tête, il est fort, il est puissant, c'est un vrai garçon.
Et pourtant,
quand la jeune fille le fait, c'est toute une histoire qui vient après, elle est mal éduquée.
C'est toujours plus facile de juger les autres que de juger soi-même, évidemment. Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à ça, ça évolue? Est-ce que vous avez l'impression, Rodrigue, Cambou, que les jeunes en parlent entre eux, ou c'est des discussions séparées, d'un côté les filles, de l'autre les garçons? Ou est-ce qu'il y a de l'échange?
Il y a de l'échange. Parce que parfois même, il y a certaines actes qui sont posées, qui sont faits de façon en groupe. C'est-à-dire ils se mettent d'accord, comme par exemple, il y a le tchep qui est fait, il y a les tontines sexuelles qui sont faites aussi. Donc c'est ensemble, c'est pas les garçons seulement. Il y a les jeunes filles et les jeunes garçons qui se mettent ensemble, ils louent un local, ils sont dedans, ils ont des rapports sexuels.
Et est-ce que les réseaux sociaux ont changé quelque chose? Peut-être que chacun d'entre vous pourrait réagir à ce sujet. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans cette drague, dans cette séduction, voire plus, dans parfois des négociations sur des relations sexuelles? Rodrigue Cambou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
D'accord. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que les réseaux sociaux ont favorisé ou ont rendu plus simple cette technique de drague. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Hein. Là-bas, tout le monde est parfait, tout le monde est beau. On a la capacité de pouvoir transformer une photo de sorte que la personne soit une personne agréable, la personne qu'on veut. Et les images qu'on met à la pub pour pouvoir envoyer à la jeune fille
ne sont pas forcément réalistes.
C'est ça.
Et
ça
avec également ce qu'on dit de soi. Docteur Eliane Abbé Nangoran, justement sur ces réseaux sociaux, il y a aussi des jeunes qui vont aller chercher de l'information sur leur santé, sur les relations. Ça veut dire qu'il y a parfois aussi du bon et du mauvais.
Effectivement, il y a du bon et il y a du mauvais. Et bien sûr, où on part chercher l'information quand on est jeune, c'est bien sûr tout ce qui est sensationnel, tout ce qui pourrait vous faire plus plaisir. Et sur ce, je voudrais vraiment rassurer les jeunes. De plus en plus, tout ce volet adolescent et jeune est pris en compte. On apprend aux prestataires à recevoir les adolescents. Ça veut dire que c'est une véritable préoccupation pour nous.
Berthe Odile Pouan, je vous pose cette question avant juste de donner la parole aux auditrices et aux auditeurs, au public qui est là et qui nous écoute depuis tout à l'heure, parfois bien assidu, parfois un petit peu moins assidu. C'est sûr, ce contact et ces informations transmises par les parents. Il y a du travail à faire de la part des associations de jeunes, de la part de certains soignants, comme on vient de l'entendre, mais aussi peut-être de la part de certains parents.
Oui, également, parce qu'on éduque à la scolarité, on éduque à la morale, mais on n'éduque pas à la sexualité, parce qu'on ne prend pas en compte cette frange de la population. On prend en compte les enfants, on prend en compte les adultes, mais on oublie que c'est à l'adolescence que la maturité sexuelle apparaît avec les caractères sexuels secondaires, et c'est à l'adolescence qu'on peut enceinter et qu'on peut être enceinté. Mais comme on prend toujours le jeune homme comme un petit, on ne conçoit pas sa sexualité et il va aller sur internet pour s'auto-éduquer. Le parent confond éducation sexuelle et initiation à la sexualité. Voilà le problème. On ne leur demande pas. On ne demande pas aux parents de montrer comment on fait l'amour. On dit d'éduquer le corps. Voilà comment est-ce que tu vas, l'hygiène corporelle. Voilà comment tu es devenue femme. Et c'est ça qui fait la gêne. Quand on va trouver la gêne que le parent a à parler de sexualité, on va trouver la solution à l'éducation par le parent de la sexualité sans gêne.
En même temps, ce n'est pas évident de transmettre des informations quand soi-même, on n'a pas appris à les transmettre. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde non plus.
C'est pour cela que nous, quand on fait les conférences, on va vers les parents et on leur donne les outils de connaissance. Parce qu'avant que tu n'éduques, il faut que toi-même, tu sois éduqué à la sexualité pour une transmission plus efficiente de cela.
Alors, amour, sexe, engagement, fidélité, on peut même parler contraception, on va voir. En tout cas, avec le public qui est réuni ici à l'INGS de Marcory, avec une jeune fille qui va tout d'abord prendre la parole, c'est Aïcha. Bonjour Aïcha.
Bonjour.
On vous écoute.
C'est Aïcha, 20 ans. Comment reconnaître l'amour et qu'est-ce que l'amour?
Alors, une grande question, qu'est-ce que l'amour? Ça, il nous faudrait plusieurs heures, je pense, pour définir ce qu'est l'amour, voire des années. Il y en a qui en ont écrit des livres de plus de 500 pages. Berthe-Odile Pouan, comment sait-on qu'on est amoureux et pas simplement qu'on a envie de passer une soirée avec quelqu'un?
Ben, l'amour est un sentiment fort. C'est pour ça qu'on dit tomber amoureux. Quand on tombe, il y a une sorte de déséquilibre en vous qui se manifeste devant l'être aimé. Il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui nous trouble. Il y a une attirance vers une personne. Il y a comme si on avait envie d'être avec cette personne. Donc l'amour est un sentiment qui va amener après un comportement. Un lien va se créer et cela peut amener ailleurs. Comme moi, je sens que je suis amoureuse, mais quand la personne est présente dans mes pensées, quand je me sens bien pendant que je suis avec la personne, quand j'ai envie de converser avec cette personne, quand je veux être en relation amicale, sentimentale, avant d'arriver à la relation sexuelle, qui arrive comme une cerise sur un gâteau. La sexualité ne commence pas l'amour, la sexualité vient dans l'amour.
Docteur Eliane Abenyangoran, est-ce que vous diriez qu'il y a même des signes physiques, un ressenti spécifique qui permet de savoir que là, on est vraiment amoureux?
Oui, je pense qu'elle a dit beaucoup, hein. C'est vrai qu'on peut avoir des palpitations, mais je crois que vous connaissez tous, je ne connais pas son nom, mais il y a un chanteur ici qui dit « Je suis tombé dedans ». C'est ça, « Je suis tombé dedans ». Donc vraiment, chacun apprécie à son niveau qu'il y a un changement en lui vis-à-vis de la personne qui n'arrive plus à oublier. Voilà.
Voilà pour cette réponse à Aïcha. On va tout de suite donner la parole à quelqu'un d'autre dans le public. C'est Vanel qui est avec nous. Bonjour Vanel.
Bonjour.
Alors vous avez 30 ans, on écoute tout de suite votre question.
Quels sont les différents types d'amour? Parce qu'on parle d'amour, je ne sais pas si l'amour ne se limite seulement à la relation sexuelle. Où il y a, nous parle également aussi de l'amour au niveau de la religion. Donc je vais savoir quels sont les différents types d'amour.
Par exemple, la ferveur, la relation amoureuse, même l'amour qu'on peut avoir pour ses frères et sœurs ou pour ses parents.
C'est exact.
On n'a pas les mêmes sentiments, c'est différent. Berthodile Pohan, comment distinguer ces différents sentiments?
Ben, l'amour filial, c'est ce qu'on ressent. L'amour maternel, l'amour fraternel, tout ce qu'il y a. Et parfois, les religieux parlent d'agapé, de ce qu'on ressent dans la dimension religieuse. Donc, ce type d'amour, c'est pour ça que vous voyez, quand la belle-mère et sa bru aiment le fils, ce n'est pas le même sentiment. L'autre, c'est l'amour filial, mère-enfant, et l'autre, c'est l'amour sentimental, épouse et ce monsieur. Donc, cela ne se manifeste pas. Mais il y a toujours ce désir-là qui est à la base, à part que l'amour sentimental, il y a le rapport sexuel qui arrive. Sinon, vous aimez votre maman, vous avez envie de la voir, vous avez envie d'être avec la personne, de discuter avec. On ressent quelque chose. Il y a comme s'il y avait un lien qu'on créait, et ce lien-là est tellement fort qu'on a envie de le voir, de voir cette personne-là, de la voir. Donc, ici, nous parlons plus peut-être d'amour au niveau de relations sentimentales, de vie de couple. Sinon, vous pouvez aimer toutes les personnes, mais différemment. Même les enfants, on ne les aime pas de la même façon. On les aime différemment selon ce qu'on apprécie chez chaque enfant.
Tout à l'heure, on parlait justement de cette séduction. Est-ce que ça veut dire que pour certains, Rodrigue Cambou, certains jeunes avec lesquels vous parlez, vous avez l'impression qu'ils confondent justement l'amour et l'envie de faire l'amour?
Effectivement, et c'est le constat de façon générale chez tous les jeunes. Les jeunes aujourd'hui confondent la passion et l'amour. Parce que l'amour, c'est, en tant que jeune, c'est accepter la personne telle qu'elle est, accepter la personne avec ses valeurs. Par contre, la passion, on voit la personne est belle, on a envie de cette personne, et tout ce qu'on va faire, c'est dans le but de pouvoir avoir cette personne avec nous dans notre lit. Voilà, donc, avec les jeunes, il y a vraiment cette confusion qui est faite.
Aurélie est avec nous dans le public. Bonjour Aurélie.
Bonjour. Je veux savoir comment retomber amoureuse après une déception amoureuse, communément appelée goumé-goumé.
Donc, comment retomber amoureuse après le goumé-goumé, c'est ça? C'est ça. Berthodile Pohan, parce que justement, on parle d'amour, on parle aussi de chagrin d'amour, forcément.
Oui, c'est de cela qu'il s'agit. L'amour est tellement beau que c'est celui qui aime le plus qui souffrira le plus lors d'une séparation ou autre. Oui, comment retomber amoureux? Il ne faut pas le faire automatiquement. Il faut d'abord se délier seul, apprendre à affronter, à surpasser cette blessure avant de se relier. L'erreur qu'on fait, c'est d'utiliser une personne automatiquement pour vouloir se relier alors qu'on n'est pas encore guéri. Il faut apprendre à affronter, soit même savoir que l'amour peut aller plus loin et qu'également, cela peut finir. Pensez au bon moment. Ce n'est pas l'amour qui finit parfois, c'est la relation qui se termine. C'est pourquoi il y a des amours qui ne finissent pas, mais c'est les relations qui se terminent. Et également, on peut continuer d'aimer sans désir sexuel. Donc, ici, il faut apprendre surtout à guérir, c'est important. À apprendre à affronter la douleur du chagrin amoureux, c'est normal. C'est ce qui fait qu'on est humain.
Docteur Eliane Abedangoran, est-ce que vous diriez qu'il y a en quelque sorte une forme de cicatrisation de cette relation amoureuse et que si on se réengage trop tôt, eh bien on risque de tomber dans une relation qui ne correspondra pas à ce dont on a besoin, à ce qui va nous faire du bien?
Oui, bien sûr, on n'aura pas ce qu'on veut. Et puis, je crois qu'il faut qu'on accepte aussi que l'autre peut ne plus vous aimer, c'est son droit. Donc, il faut apprendre il faut se fortifier, il faut apprendre à guérir et puis tirer les avantages de cette relation parce qu'il y a bien eu des bons moments, savoir pardonner et puis retomber sur ses jambes. Ce n'est pas une compétition. On n'a pas besoin de multiplier les partenaires parce qu'on se retrouve seul. On a besoin aussi de moments pour faire le vide, pour penser à autre chose, pour se construire un peu plus. Et puis chercher à avancer.
Voilà pour cette réponse. On va donner le micro, la parole à un autre auditeur. C'est Ahmed qui est avec nous. Bonjour Ahmed.
Bonjour. Je veux savoir, est-ce que l'amour aboutit toujours au mariage? Et quel est le rôle de la sexualité dans l'amour?
Ahmed, vous aviez un projet de mariage? Vouliez vous engager avec une jeune fille?
Oui, évidemment.
Et comment ça s'est passé?
Bon, comme toujours, vraiment, ça n'a pas été comme je l'aurais souhaité. Voilà. Oui, elle a cassé mon cou puisqu'elle n'a pas voulu me suivre dans mon projet. Oui, elle n'a pas voulu me suivre dans mon projet.
Elle n'a pas voulu vous suivre alors que vous aviez envie d'aller plus loin avec elle.
Oui, oui.
Et est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi?
Bon, elle a pris comme prétexte son étude qu'elle préférait poursuivre ses études au lieu de se marier. Voilà.
Pour elle, c'était trop tôt.
Oui.
Il lui fallait du temps.
Voilà.
Justement, quand on n'est pas, on va dire, sur la même longueur d'onde, Odile Pohan, Berthe Odile Pohan, certains voudraient un engagement, d'autres demandent du temps, de la réflexion, pouvoir faire d'autres projets. C'est quelque chose de fréquent.
Oui, et c'est ce qui fait le charme. Parce qu'on peut aimer, mais ne pas vouloir s'engager. Parce qu'on se dit, je l'aime bien, mais son caractère ou son tempérament, il y a quelque chose. Il y a des choses en lui qui font que je n'ai pas envie de lier ma vie. Mais cela n'a rien à voir avec les sentiments amoureux que j'ai pour lui.
Parce qu'il faut pouvoir se projeter, pouvoir imaginer la vie plus loin.
Et puis le mariage, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Est-ce que nous sommes dans la maturation affective, sociale, pour pouvoir nous engager dans une relation durable? Est-ce que nous sommes suffisamment prêts pour que aujourd'hui, si on devait se marier, cette femme-là, vous puissiez être dans une relation, vous-même, vous vous êtes accompli ou vous êtes réalisé au niveau professionnel, social et autres, pour lui offrir ce que vous avez de mieux. Parce que si on n'est pas prêt, on vient donner du stress, on vient donner ce qui ne va pas valoriser la relation. Donc, on peut aimer et ne pas vouloir s'engager à vie.
Et c'est parfois difficile, docteur Eliane Abedangoran, d'accepter cette séparation. On voit aussi dans certains couples, on va dire, des personnes qui s'accrochent, qui insistent. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile à dire. D'ailleurs, aussi bien pour la personne qui insiste que pour la personne qui se sent de l'autre côté harcelée.
Oui, c'est vraiment difficile à vivre. Ça devient maladif. Et puis, je crois que ne pas vouloir s'engager, comme on dit, ce n'est pas arrêter d'aimer, mais c'est essayer d'être responsable, de savoir qu'on a des objectifs, de savoir qu'on veut se réaliser avant de continuer. Et je crois que chacun a bien sûr le droit d'avoir sa vision de la vie, sa vision de l'engagement, sa vision du mariage, parce qu'on ne s'engage, on s'engage, comme on le dit, pour le meilleur et le pire. Donc il faut pouvoir faire le choix qu'il faut au moment où il faut. Il ne faut pas s'engager et puis compter sur les parents.
Alors, on va prendre un autre auditeur. Bonjour, Zoura.
Oui, bonjour.
On écoute votre question, allez-y.
Est-ce qu'il existe des prises en charge psychologiques pour les cas de déception amoureuse?
Prise en charge psychologique pour chagrin d'amour. C'est une question, vous pouvez répondre. Vous êtes psychopédagogue, Berthaud Dupont.
Non. Même pour les autres cas, hein, même pour les traumatismes, vous savez que c'est ça le problème de la psychologie. Il n'y a pas de prise en charge parce que ce n'est pas encore effectif. Chez nous, je parle. Et à plus forte raison, une déception amoureuse qu'on ne qualifie pas de traumatisme lors d'un accident, d'un incendie. Mais vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter pour qu'on puisse vous aider à sortir, à vous reconstruire, à affronter la déception amoureuse et surtout à vous reconstruire. C'est ça qui est important dans la séparation. Pouvoir savoir qu'il y a le meilleur pour vous.
Pour que le chagrin d'amour ne devienne pas une maladie, qu'on n'aille pas vers la dépression.
Parce que c'est ça, il y a les maladies psychosomatiques qui sont là, vous allez faire des insomnies et puis on vous voit en train de prendre des somnifères. Est-ce qu'au réveil, la déception est passée? Il faut affronter et en guérir.
Mais ce qu'on peut faire aussi dans ce cas-là, et Rodrigue Cambou ne nous dira pas le contraire, c'est aussi d'aller vers des associations de jeunesse, trouver des gens auprès de qui parler, ses pairs. Comme ça, on parle, on multiplie les échanges, on fait un partage d'expériences et comme ça, on peut dire que finalement, c'est dur, mais d'autres l'ont vécu et d'autres ont surmonté ce problème.
Oui, c'est ça. Au niveau des associations de jeunesse, on a ces groupes effectivement qui existent où quand on se regroupe, chacun explique un peu les difficultés qu'il rencontre, ce qu'il a vécu comme goumen. Et ensemble, on essaie d'apporter une solution à cette personne, à voir comment faire pour l'aider à se relever.
Et en plus, on se dit quand on parle à des gens de notre âge, ils sont plus en phase avec ce qu'on vit. On parle avec nos mots, on parle avec le naturel et on a une meilleure écoute. Des fois, on se dit peut-être qu'auprès d'un médecin ou d'un psychologue, ça va être peut-être un peu plus compliqué de parler, même si ce n'est pas forcément toujours le cas.
Oui, c'est tout à fait vrai. Avec les jeunes, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir exprimer les différents sentiments. Donc, quand nous sommes entre nous jeunes, ça passe plus facilement que lorsqu'ils sont avec, par exemple, des adultes ou bien des personnes plus âgées ou bien des personnes spécialistes.
Alors, on va prendre un autre auditeur qui est bien sûr dans le public d'Abidjan. Est-ce que le public est toujours là ou tout le monde dort? Non, il est là. C'est bon, ça va. Alors, okay. Dans le public, ce jeune garçon, c'est Souleymane. Bonjour, Souleymane.
Je me nomme Souleymane, j'ai 33 ans. Comment faire lorsque nous sentons que l'amour que nous endurons n'est pas partagé par notre condisciple? Merci, je m'intéresse aux experts en la matière.
Alors la parole aux experts. Moi j'aime bien parce que vous dites l'amour que nous endurons. C'est que c'est déjà pas une partie de plaisir. Quand on endure l'amour, c'est que c'est déjà assez mal parti. Hein. On est déjà dans la douleur, donc douleur d'amour.
Oui, bon. Effectivement. Pour moi, je pense que l'amour que nous endurons aujourd'hui, c'est une douleur. Donc réellement, il va falloir qu'on nous explique.
Mais vous dites ça pourquoi? Parce que vous avez eu des expériences douloureuses?
Parce que, oui, parfaitement. Après plusieurs années de calvaire, que je vais le dire aujourd'hui. Je pense que après ces moments de difficulté traversés avec l'une des nôtres, celle-ci m'a montré que l'amour réellement n'était pas partagé. Donc je cherchais les voies et moyens pour savoir comment faire pour partager cela et comment faire pour savoir telle personne que j'envisage mariée ne partage pas ma vision et quelles sont les méthodes appliquées pour pouvoir atteindre l'objectif visé.
Alors,
merci.
Pour la méthode, on va voir. Mais Souleymane, moi j'ai une petite question. C'était juste douloureux tout le temps ou il y a un moment où c'était un peu agréable quand même?
Que nous avons fait 3 ans ensemble.
C'était pas 3 ans de calvaire quand même?
Ouais, 3 ans.
Non, vous êtes courageux. Hein.
Toujours dans les petits rififis, je voulais dire ça du calvaire.
Parce que,
voilà.
Merci. Parce que c'était pas suffisamment partagé à vos yeux.
Merci, c'était pas partagé.
Voilà. Alors, il a utilisé un mot qui est pas très très commun en amour, c'est méthode. Hein. Docteur Eliana Ben-Goran, c'est pas l'amour bonheur là qu'on a entendu, c'est l'amour douleur. C'est quelque chose qui arrive aussi, hein.
Oui, ça arrive aussi, mais là vraiment pendant 3 ans l'amour douleur.
Il faut dire que les moments de convivialité que nous partageons, si nous avons peut-être 30 minutes à passer, on peut prendre 20 minutes de dispute d'abord.
Ah, donc un couple conflictuel.
Je pense que là, un autre thème, je pourrais dire même, il y avait une question de maso dans nos relations. Donc il va falloir qu'on m'explique ce phénomène.
Cohabitation dans la douleur, je ne sais pas qui veut réagir à ce sujet. Berthaud Dupont, vous qui êtes peut-être spécialiste des cas compliqués, on va vous donner la parole.
Azumana ne dit pas ce qui se passe. Parce que la femme amoureuse, quand elle vient vers l'être aimé, généralement, c'est pour qu'on partage quelque chose. Maintenant, ce qui fait le charme de l'amour, c'est le partage. Parce que c'est pour ça que Jacques Salomé pouvait dire que c'est un lien où chacun tient un bout. Donc si toi, c'est ça qui fait que l'amour est là. Quand l'autre laisse le bout, il n'y a plus d'amour parce que le fil n'est plus tendu de toi vers moi. Et donc c'est ça qui fait que l'amour doit être partagé. Est-ce que vous avez communiqué avec elle pour comprendre? Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle n'appréciait pas? Parce que je pense que pour qu'il y ait des accords, c'est qu'on vous explique ce qui ne va pas, ce qui ne sied pas à la relation. La relation peut être malade, elle peut être comateuse. C'est pour ça que la communication est comme un vaccin. Ou la communication peut être un sérum quand on est dans la relation. Mais si vous ne communiquez pas, vous n'allez pas comprendre l'autre. On ne se fâche pas pour dire tu es comme ça, tu es tant. Elle l'a expliqué ce qui ne va pas. Et si c'est récurrent, c'est ça qui est bien avec la femme. La femme vous montre qu'elle n'est pas contente. Elle ne sait pas, pour certaines femmes, mais pas toutes les femmes, elle va montrer qu'elle n'est pas contente parce qu'il faut qu'on parle. Même si c'est 2 ans, elle va revenir sur un problème qui a été mal soigné ou mal étudié ou en affaire. Voilà, c'est ça qui est important chez la femme. Est-ce qu'on a bien communiqué sur ce qui n'allait pas dans la relation?
Oui. Voilà, voilà pour cette question. On a terminé par une histoire d'amour pas très romantique. Moi, j'ai 2 petites questions qui ont été posées tout à l'heure par une jeune fille qui est trop timide pour prendre la parole. Elle s'appelle Rita. Et ça résume un petit peu ce qu'on a dit depuis le début. Elle nous interroge sur la distinction entre l'attirance et l'amour. Si on devait vraiment résumer le thème de cette émission, c'est bien ça. Savoir qu'est-ce qui nous permet de nous projeter dans la durée, qu'est-ce qui nous permet d'être dans la sensation immédiate. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette question, docteur Eliane Abenyangoran, question de Rita. Quelle distinction entre l'attirance et l'amour? Et puis toujours des questions sur la déception amoureuse.
Oui, Rita, l'attirance, je crois bien que c'est tout ce qui éblouit au début. Et puis l'amour, tout à l'heure il parlait de déception, c'est ce qui va rester, ce qui va durer, tout ce qu'on va accepter, ce pourquoi on pourra être tolérant et également tout ce qu'on pourra pardonner, tout ce qui va rester après cet éblouissement, cette passion. Comme les anciens ont tendance à le dire, il y a beaucoup d'affection qui reste, hein? Il y a peut-être un peu moins d'attirance, mais il y a un sentiment profond qui fait qu'on ne peut plus se passer de cette personne et que cette personne-là devient un peu son double.
On a fait cet échange de questions-réponses avec le public. On va poursuivre notre débat. On approche de la conclusion, hein. On a parlé de beaucoup de choses, de ces sentiments. On a parlé tout à l'heure de la distinction entre éducation sexuelle et initiation sexuelle. Ça nous ramène forcément à tout ce qui relève de la tradition, du tabou, du non-dit, des obstacles aussi qui relèvent de notre éducation quand on arrive à l'âge de faire des rencontres. Qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas? Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre de donner la meilleure information possible pour que finalement ces adolescents, ces jeunes grandissent et s'aiment en bonne santé? Berthodile Pohan, on a parlé tout à l'heure du rôle des parents, on a parlé du rôle des associations, il y a aussi le rôle des médias, de l'information, oui, des pouvoirs publics. Qui peut vraiment servir de levier?
Ben, toute la société, parce que c'est vrai que la famille est le premier milieu d'éducation de l'enfant, mais également l'école. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les grossesses en milieu scolaire, vous avez plus de 4000. C'est beaucoup. Un lieu du savoir qui devient lieu de grossesse, cela vous interpelle. On n'est pas dans la cognition, on est dans la sexualité. Et là, il faut pouvoir amener les personnes à connaître leur corps, à connaître les méthodes de contraception. C'est pour ça que je l'ai dit, j'ai été panéliste au ministère de l'Éducation sur les grossesses. On ne dit pas qui fait l'amour, on dit qui tombe enceinte. Ça veut dire qu'on peut faire l'amour sans tomber enceinte, alors qu'on nous donne l'impression que la sexualité, l'amour, l'acte sexuel veut obligatoirement dire tomber enceinte.
Et c'est bien pour ça que demain on va consacrer une émission à la contraception, parce qu'il y a des moyens pour justement ne pas tomber enceinte quand on n'en a pas le désir et pas de projet en tout cas.
La présentation de la sexualité, on donne l'impression que la sexualité vient pour détruire la vie. On fait une présentation qui n'est pas bonne de la sexualité. Ce sont les conséquences de la sexualité non responsable, non protégée, qui apportent des éléments qui ne sont pas bien. Sinon, ce n'est pas l'acte sexuel en lui-même qui est problématique. si c'est fait selon les normes de contraception et autres. Et également montrer qu'éduquer, c'est sortir de l'ignorance. Quand je reçois une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte parce que son copain lui dit il faut faire l'amour pendant 5 mois avant de tomber enceinte, qui n'a pas joué son rôle? On n'a pas donné les éléments d'information à cette petite. C'est l'ignorance qui a fait qu'au bout de 2 mois, elle est tombée enceinte. Si elle savait que même une fois, on faisait qu'on tombe enceinte. Donc, créer des points focaux d'information et d'éducation. Les médias, nous faisons plusieurs émissions radio, télé. Nous avons fait le panel de la jeunesse et également parler de la sexualité à risque, mais pas comme leçon à réciter, mais comme élément réel.
Avec des questions concrètes.
Avec des jeunes gens qui vont partir et puis faire des, comment on appelle, des applications
des
anonymes.
Des ateliers.
Oui, et puis même les applications anonymes où le jeune homme peut aller voir des sites. Et ça, actuellement, il y a des pays qui le font et qui le mettent sur des sites.
Des sites d'information publique. Docteur Edil Abenyang-Goran, justement, tout à l'heure, vous disiez, quand on va à l'hôpital, pas toujours facile, justement, de trouver une oreille qui ne va pas vous juger. Il y a aussi une autre question, c'est celle, bien sûr, on parlait de la famille, mais aussi des dignitaires, des anciens, dignitaires religieux, qui dénoncent le libertinage, la dépravation. Est-ce que, justement, le milieu médical engage des discussions, des concertations avec ces milieux pour qu'on trouve un terrain intermédiaire pour qu'on puisse se parler sans forcément dénigrer?
Oui, bien sûr, on essaie. On a beaucoup d'actions de plaidoyer envers les autorités, c'est vrai, mais plaidoyer au sein de la population, au sein des religieux, mais notamment au sein des jeunes même. Hein? Leur donner l'information qu'il faut, les sensibiliser, leur faire comprendre qu'ils peuvent venir chercher la bonne information au niveau des structures de santé. Il y a des structures de santé pour les jeunes et adolescents, dédiées seulement aux jeunes et adolescents qui ont des centres d'écoute. Étant donné qu'ils sont en nombre insuffisant, c'est la raison pour laquelle les prestataires qui sont dans les autres structures de santé sont également formés à la communication avec les jeunes. Donc je pense que c'est vrai, il y a les réseaux sociaux, mais venez à la source prendre l'information, la vraie information, pour votre vie, mais surtout pour votre survie. Il y a des maladies, il y a les grossesses, il y a les avortements à risque. Vraiment, c'est vous l'avenir de demain. Soyez sains.
C'est pas en détournant les yeux que les choses n'arrivent pas, Rodrigue Cambou. J'imagine que c'est aussi quelque chose que vous dites. On peut avoir des convictions, vouloir vivre dans un monde d'abstinence, de première relation après le mariage, mais ça se confronte à la réalité. C'est ce que vous dites aussi aux jeunes quand vous les rencontrez.
Oui, on leur dit ça lorsque on fait les ateliers de sensibilisation, parce que c'est bien vrai de vouloir faire l'abstinence et avoir le premier rapport sexuel après le mariage, mais il y a une réalité qui est là. Et le plus important, c'est de donner la bonne information, de sorte que quand le jeune aura le rapport sexuel, qu'il n'y ait pas d'infection ou de grossesse non désirée qui vont provoquer soit l'avortement et même voir la mort de la jeune fille. Alors, donc c'est vraiment outiller les jeunes avec toutes ces informations. Ceux qui veulent faire l'abstinence, c'est une bonne chose. Mais ceux qui n'y arrivent pas, il faudrait qu'ils aient vraiment tout l'arsenal pour pouvoir se protéger.
Et ce qu'on comprend bien, c'est qu'il faut adapter vraiment l'offre et les possibilités à chacun. Il y a un côté très individuel. Mais pour conclure, on a pas mal parlé de cette protection des relations sexuelles. J'aimerais qu'on revienne à ce sentiment d'amour à travers l'expérience que vous avez, vous, professionnel. Est-ce que vous avez encore l'impression que l'engagement et la fidélité, ce sont des valeurs importantes? Peut-être qu'il y a une première phase, on va dire, de butinage, mais après, est-ce qu'il y a quand même ce projet de famille, ce projet d'inscription dans la durée? Docteur Eliane Abenyang-Goran, est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de jeunes, même s'ils tombent amoureux et ils enchaînent les relations jeunes, plus tard, ils ont envie de se fixer?
J'ai beaucoup confiance aux jeunes et je suis persuadée qu'au fond d'eux-mêmes, c'est une étape de leur vie. Mais dans le fond, ils ont l'intention d'avoir le meilleur devant eux. Donc, ils ont l'intention de se fixer, de fonder des familles, d'élever des enfants qui aient des comportements vraiment au meilleur. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir à ce niveau.
Berthaudil Pohan, justement sur ce projet, cette capacité de se projeter dans le futur, même si dans sa jeunesse, on aime bien l'amour à la va-vite, est-ce que plus tard, malgré tout, on a envie de se marier?
Oui, quand on connaît la psychologie de l'adolescent, qui est que c'est l'âge de la curiosité, c'est l'âge des conquêtes, des quêtes identitaires, d'orientation sexuelle et autres, on sent que même quand ils sont amoureux dans leur jeunesse et dans l'adolescence, on voit comment ils se comportent. Et quand vous discutez, ils se disent que quand je vais finir, quand j'aurai mes diplômes, je vais me marier. Donc l'engagement mariage est encore dans leur projet. Ils ont envie de le faire un jour, même si aujourd'hui on doit comprendre qu'ils sont dans une quête sexuelle par rapport à l'adolescence caractérise.
Et même si beaucoup de mariages se terminent sur des divorces, c'est une réalité.
Ça, c'est vrai. Parfois, on voit un mariage sur deux. Et en Côte d'Ivoire, on dit 60% des divorces de 30 à 40 ans, ce sont les jeunes. Donc, parce que peut-être qu'on a mis trop de responsabilités. Vous savez, l'attente non comblée nous désespère. On pense que l'autre va combler beaucoup de choses, que l'autre va combler notre manque d'amour. Ça serait un amour de besoin, un amour de manque. Mais si on est mature et qu'on comprend qu'on construit la relation et que ce n'est pas un état, on va comprendre que le mariage, c'est un processus.
Qui repose aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la communication.
La communication, est-ce qu'on ne communique pas? Mais est-ce qu'on communique, mais est-ce qu'on entend l'autre dans ses besoins, dans ses attentes et dans ses complaintes? C'est ça qui est important. Est-ce que je conçois l'autre dans ses oppositions? Voilà, c'est ça.
Rodrigue Cambou, est-ce que les jeunes qui viennent vous voir ont envie de se marier? Est-ce qu'ils parlent mariage?
Eh bien, la majorité des jeunes qui viennent nous voir, ça peut être étonnant, mais certains ont des projets de mariage. Pas forcément avec le partenaire avec qui ils sont actuellement, mais ils ont des projets de mariage. Pour le moment, ceux avec qui ils sont, et ceux qui peuvent le dire ici, c'est juste un temps de plaisir pour passer la jeunesse. Voilà, c'est un peu ça.
Mais et justement, dernier message, j'aimerais que justement laisser la parole aux jeunes de ce plateau parmi nos invités, même si nous on n'est pas si vieilles non plus. Après justement avoir entendu le message des jeunes, une dernière question. L'amour pour vous, c'est quoi exactement? Parce que vous parlez aux jeunes, vous leur donnez des conseils, mais pour vous, c'est quoi?
Pour moi, l'amour, c'est l'épanouissement avec autrui. La personne avec qui on est, on doit être en mesure de pouvoir s'épanouir avec cette personne-là. Pas forcément tout ce qui est matériel, tout ce qui est brillant, mais en termes de comportement, en termes d'attitude, c'est vraiment tout un paquet. Voilà.
Et vous, c'est, pour vous, c'est un idéal ou c'est une réalité?
Pour moi, c'est une réalité, l'amour.
Vous êtes amoureux?
Effectivement, je suis amoureux.
Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. On va vous remercier tous les trois. On va remercier nos invités pour cet échange. Merci beaucoup à vous, docteur Eliane Abeignan-Goran, gynécologue obstétricienne au CHU de Trècheville. Merci à vous, Berthaudil Pohan, psychopédagogue à Abidjan, Rodrigue Cambou, président du mouvement d'action des jeunes. Grand merci, puis amoureux, on l'a entendu. Grand merci à vous, public présent à l'INGS. Merci beaucoup les jeunes d'Abidjan. On salue bien sûr toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Pour commencer, Madame Assetou Samaké qui était là au milieu du public. À la console, Marc Fichet, Boris Vichit qui ont assuré bien sûr la réalisation. Priorité santé à Abidjan à l'occasion de la 12e édition du FEMUA. Merci aussi à toutes celles et ceux, j'ai pas le temps de donner le nom de tout le monde, mais qui ont aidé à préparer cette émission. Et puis demain, on va se retrouver, on va se donner rendez-vous, toujours en public, et j'espère qu'il sera aussi nombreux et réactifs. Une autre émission qui vous concerne directement, on va dire aujourd'hui, c'était le hors-d'œuvre. Demain, c'est le plat de résistance, la contraception, information, accès, les moyens mis en œuvre pour lutter contre les grossesses non désirées. On se donne rendez-vous demain, 9h10, temps universel. C'est bien sûr l'horaire de diffusion sur RFI. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.